RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine, en partenariat avec le quotidien La Croix. Au-delà de notre élection présidentielle, au-delà de la guerre en Ukraine, il est des dossiers aujourd'hui apparemment en sommeil, mais qui pourtant conditionnent notre avenir. Parmi eux, la situation au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et en Libye. Pourquoi tant d'États arabes sont-ils à l'agonie, empêchant leur population de vivre décemment et détruisant les équilibres régionaux ? Pourquoi les printemps arabes se sont-ils soldés par des chaos souvent sanglants ? Quelles sont les racines historiques de ce chaos ? Pierre-Jean Luizard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des islams au Moyen-Orient, et vous publiez un livre tout à fait passionnant intitulé « Les racines du chaos ». C'est publié chez Talendier. Avec votre livre, vous nous aidez à décrypter ce que vivent ces pays, notamment à travers leur histoire, depuis la fin de l'Empire ottoman, jusqu'à après, la Seconde Guerre mondiale. Nous allons donc partir avec vous aux sources des racines de ces chaos arabes. Et nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et grand connaisseur du Moyen-Orient.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, nous allons converser autour des sources des racines des chaos arabes avec Pierre-Jean Luizard, auteur du livre « Les racines, justement, du chaos » chez Talendier, et puis Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Alors, Pierre-Jean Luizard, au commencement était l'Empire ottoman. On l'a peut-être oublié. Comment se présentait l'Empire ottoman au début du XXe siècle, Pierre-Jean Luizard ?
Eh bien, au début du XXe siècle, vous pouviez aller d'Istanbul à Bassora, à Damas et à Jérusalem, sans passer de frontières. Ça fait rêver de nos jours. Il y avait des provinces avec des gouverneurs, mais qui n'étaient pas à la tête d'entités étatiques. Il y avait juste un bémol à ce que je viens de dire, c'est le fait que beaucoup de territoires échappaient au pouvoir central. C'était notamment le cas des territoires tribaux à majorité chiite en Irak qui vivaient leur propre vie. Et c'était également le cas, dans une moindre mesure, du Mont Liban qui, depuis plusieurs siècles, vivait un statut spécial dédié aux intérêts de certaines minorités, pas de toutes les minorités,
voilà.
Mais de certaines
Alors,
minorités.
On va revenir sur chacun de ces territoires et justement sur l'histoire de ces nouveaux États. Juste encore une précision sur cet empire ottoman au début du XXe siècle. Vous nous décrivez une sorte d'emprise politique relativement lâche. On ne pouvait pas dire que l'empire ottoman était un empire de type colonial, Pierre-Jean Luizard.
Alors, il y avait un lien et une légitimité du pouvoir ottoman aux yeux de la majorité musulmane qui était le califat. Le sultan ottoman était en même temps calife, donc était censé être la direction politique et religieuse.
Donc le lien, c'était l'islam, ou plutôt les islams.
Le lien, c'était l'islam pour la majorité musulmane sunnite et pour certaines minorités reconnues aux yeux de l'islam sunnite, comme les chrétiens et les juifs. Mais il faut rappeler que les minorités issues de l'islam, elles n'étaient pas reconnues. C'était notamment le cas des chiites, qui était majoritaire en Irak et dans ce qui sera le Liban, et de beaucoup de communautés comme les yézidis, les alaouites et d'autres communautés.
Alors on va revenir sur cette grande diversité.
Avec une exception, les druzes du Liban.
Une question de Jean-Christophe Ploquin à La Croix.
Oui, peut-être rappeler aussi que finalement cette période que l'on décrit vient après la perte des territoires européens ou de la plupart des territoires européens que l'Empire ottoman avait contrôlé au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Et donc finalement ces territoires arabes ou l'Anatolie, tout à coup sont devenus les territoires les plus importants de l'Empire ottoman, alors que jusque-là, c'était peut-être, ils étaient beaucoup moins centraux et beaucoup moins importants par rapport à l'implantation dans les Balkans, dans la Roumanie actuelle ou en Crimée, sur les bords de la mer Noire.
Il y a une sorte de décentrement de l'Empire ottoman, c'est ça ?
De recentrement, oui, sur de nouveaux territoires.
Pierre-Jean Louisard. Oui, tout à fait. Il y a eu au XIXe siècle une politique de centralisation, c'est-à-dire de reconquête contre des dynasties mamelouks, notamment.
Qui étaient les mamelouks, Pierre-Jean Louisard ?
Les mamelouks étaient des anciens esclaves, souvent d'origine caucasienne ou balkanique, qui œuvraient en électron libre et géraient leur province au nom du calife, mais sans en référer directement au pouvoir central. Et au XIXe siècle, il va y avoir une reconquête ottomane qui va avoir pour résultat la naissance d'un sentiment arabe de plus en plus affirmé, notamment en Syrie et au Liban.
Un sentiment arabe contre la domination ottomane ou avec la domination ottomane, Pierre-Jean Louisard ?
Alors, cela dépend des provinces. Le nationalisme était une notion totalement inconnue. La nation était réservée à quelques officiers qui avaient été formés notamment dans les écoles militaires ottomanes. Mais s'il y avait un fort sentiment d'arabité, el-Aruba en arabe, l'idée selon laquelle il y aurait une nation arabe était encore réservée à quelques élites occidentalisées. Mais malgré tout, il va y avoir, en réaction à la reconquête ottomane, un sentiment qui va être assimilé au nationalisme arabe, notamment en Syrie, alors qu'en Irak, les choses seront beaucoup plus mitigées, puisque pratiquement personne, à part quelques officiers de l'armée ottomane, n'avait une idée de ce que pouvait signifier être une nation.
Voilà. Donc la nation, qui était déjà une idée relativement récente en Europe occidentale, est une idée tout à fait absente dans cette partie
enfin,
du monde.
Relativement récente, je dirais non. Pour l'Europe, c'est le triomphe des nations, justement.
Oui, il a fallu attendre le 19e siècle.
Au 19e siècle. Mais c'est une nation qui est d'importation occidentale.
Voilà. Alors, nous arrivons à la Première Guerre mondiale. Que s'est-il passé, Pierre-Jean Louisard ? Quel camp a choisi l'Empire ottoman ?
Alors, les choses sont un peu complexes, car
comme toujours au Moyen-Orient. Allez-y, expliquez-nous.
Il y a eu une politique, notamment britannique, et française dans une moindre mesure, qui visait à encourager le nationalisme arabe. Ce sont les liens avec le shérif Hussein de la Mecque qui vont engager la formation d'une armée arabe qui va remonter depuis le Hejaz en 1917 jusqu'à Damas.
Là, vous nous parlez de Lawrence d'Arabie.
Lawrence d'Arabie est le prototype, de cet amoureux des élites arabes nationalistes. Il a un correspondant féminin à Bagdad, Gertrude Bell, qui va tenter en Irak le même processus entamé par Lawrence d'Arabie, qui va réussir à mobiliser une véritable armée pour vaincre les Turcs, puisque désormais on ne les nommait plus par leur nom religieux ottoman, mais contre les Turcs. Et donc il va y avoir une libération du Levant,
Soutenu
par les puissances occidentales, alors qu'en Irak, il va y avoir l'effet inverse. Les seuls, et là on est à nouveau en plein paradoxe, qui vont répondre positivement à l'appel au djihad du sultan calife ottoman contre les Britanniques, vont être ceux qui précisément n'avaient jamais été reconnus par ce sultan calife, à savoir les chiites. Mmh. Les chiites vont répondre massivement à l'appel au djihad et on va voir des scènes assez étranges, des officiers jeunes turcs formés des moudjahidines chiites qui n'obéissaient qu'à leurs grands ayatollahs qui avaient toujours été ignorés, sinon réprimés par les Ottomans.
On rentre déjà dans l'extrême complexité de cette région du monde. Faut-il rappeler, Pierre-Jean Luisard, que Istanbul, Constantinople, avait choisi Berlin?
Voilà, il y avait une géopolitique qui explique cette répartition et ces choix politiques faits par les uns et par les autres. Les grands empires austro-hongrois et ottomans se retrouvaient donc en solidarité avec Berlin contre ceux qu'on appelait les alliés, essentiellement la Grande-Bretagne et la France.
Jean-Christophe Ploquin, Lacroix.
Et la Russie.
Oui.
Et la Russie.
Et la Russie, ce qui explique beaucoup de choses, finalement, parce que au XIXe siècle, la Grande-Bretagne et la France, mais voilà, sous le contrôle de Pierre-Jean Luisard, avaient en quelque sorte soutenu l'Empire ottoman pour éviter un petit peu la désagrégation de cette partie de l'Europe. Donc c'était le fameux homme malade et de l'Europe, et il y avait le sentiment que pour contrer les visées expansionnistes de la Russie vers les mers chaudes, donc vers la mer Noire et vers la mer Méditerranée, donc la Grande-Bretagne et la France ont essayé de maintenir finalement l'Empire ottoman le plus longtemps possible. Et puis avec la Première Guerre mondiale, finalement, les alliances changent. Mmh. Et finalement, face à la puissance allemande, il y a cette alliance entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie, par-delà donc l'Allemagne. Et de ce fait, finalement, l'Empire ottoman va se trouver, lui, plutôt... effectivement, il y avait une politique du Kaiser allemand qui était très, très implantée, très... très pugnace au Moyen-Orient aussi, très présent. Et donc, voilà, cette alliance, finalement, Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire ottoman, contre Russie, France et Royaume-Uni.
Et puis en Russie, entre-temps, il y a eu la révolution soviétique en 1917.
En 1917.
Voilà, alors Pierre-Jean Luisard, nous arrivons donc en 1918 au fameux traité de Versailles et les traités subséquents à Versailles. Que s'est-il passé à ce moment-là? Qu'est devenu, comment est-ce que cet Empire ottoman a été... peut-on le dire, a été dépecé, Pierre-Jean Luisard?
Oui, il a été dépecé. Ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Istanbul, par exemple, citent souvent ces scènes où les troupes alliées paradent au pied de Sainte-Sophie et avec un esprit revanchard non dissimulé. Mais ce qui est important, c'est de voir que avant même l'effondrement de l'Empire ottoman, cet empire était passé pratiquement sous la domination occidentale, avec un endettement faramineux qui le rendait totalement dépendant de minorités, notamment juives et chrétiennes. Et d'une dette qu'aucun État n'aurait pu rembourser, ce qui explique la faiblesse du pouvoir ottoman face aux pressions occidentales pour des réformes. Des réformes qui ont eu lieu au XIXe siècle, et l'on sait très bien que quand des réformes, si légitimes soient-elles, sont imposées par l'extérieur, elles servent d'outils de domination, ce qui a été le cas. Et donc l'Empire ottoman qui s'est effondré à l'issue de la Première Guerre mondiale était un empire qui avait perdu une grande partie de sa souveraineté au profit des puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France.
Alors on va en venir à ces différents États qui ont vu le jour, enfin États, peut-être nations qui ont vu le jour après cette fin de la Première Guerre mondiale. On va aborder dans un instant le dossier de la Syrie. Mais avant cela, Pierre-Jean Luisard, je voudrais vous poser une question, disons, générale sur cette région du monde après la Première Guerre mondiale. Peut-on parler d'une genèse coloniale pour ces États-là?
Alors, je crois qu'il n'est pas exagéré de dire que les mandats sont la dernière mouture de la domination coloniale. à la différence près que c'est une expérience coloniale limitée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, puisqu'il y a des dates pour la fin du mandat, et dans l'espace, parce qu'il y a des frontières tracées difficilement entre Français, Britanniques et Mustafa Kemal. Mais je voudrais revenir sur un élément essentiel qui explique l'échec actuel de ces États. C'est la trahison par les Occidentaux, notamment la France et la Grande-Bretagne, des promesses faites aux Arabes pour les inciter à se soulever contre les Ottomans, dénommés désormais les Turcs.
Alors, racontez-nous, quelles promesses avions-nous faites ?
Alors, il y avait des promesses incitant les Arabes à se soulever contre les Turcs et leur faisant miroiter la perspective d'un grand royaume arabe unifié, présidé par un roi qui aurait pu être l'un des fils du shérif Hussein, et on pensait beaucoup au futur roi Faisal, l'un des fils du shérif Hussein de la Mecque. Donc un État indépendant,
qui se serait établi sur
l'ensemble du Levant, Liban, Palestine et Transjordanie comprise, et qui s'appelait à l'époque le Bilad al-Sham, c'est-à-dire la Syrie. Il faut rappeler que le mot Syrie a été inconnu des archives ottomanes jusqu'à la fin du XIXe siècle.
Oui, c'est un terme tout à fait récent.
C'est un mot récent, inspiré par les archéologues français et anglais, et issu du grec, inspiré de l'Antiquité grecque, mais qui n'avait aucune signification pour les Arabes, qui se voyait Chami, c'est-à-dire Syrien, selon le mot arabe.
Jean-Christophe Ploquin, vous avez parcouru ces régions, vous avez fait de très nombreux reportages. Et quelles sont les traces, les échos de cette histoire compliquée ? Comment on peut comprendre ça quand on est sur place, Jean-Christophe Ploquin ?
Dans certains pays, la francophonie, quand on est en Syrie, quand on est au Liban, notamment, et donc c'est vrai que c'est le résultat de périodes effectivement coloniales. Enfin, c'est la période des mandats, mais ça reste quand même une région où la France a puissamment marqué finalement de son empreinte. Moi, j'avais une question, Pierre-Jean Luisard. Je vois bien, donc pour revenir à cette période de Première Guerre mondiale et la suite, je vois assez bien finalement l'objectif britannique était notamment de sécuriser la route vers l'Empire des Indes, donc contrôler l'Égypte, contrôler le canal de Suez, contrôler aussi Bassora et le golfe Persique où on découvrait du pétrole. Donc c'est aussi le deuxième grand objectif britannique, c'était le pétrole qu'on avait découvert en Iran, qu'on avait découvert aussi, je crois, sur l'autre rive du golfe Persique. Mais voilà, pour la France, et sachant que la Grande-Bretagne était quand même la grande puissance dominante. La France était évidemment l'autre, mais je dirais un niveau en dessous.
Le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire
britannique.
Exactement.
Et donc, voilà, la France, quels étaient ses objectifs à l'époque, mais dans les années 1920-1930 ?
Alors, Pierre-Jean Luisard, vous répondez à cette question et ensuite nous allons écouter justement des propos de 2018 de Emmanuel Macron qui s'expliquait sur la Syrie. Mais répondez à Jean-Christophe Ploquin sur ses origines de la France dans cette région.
Alors, quelle est l'origine de l'influence française dans la région, notamment au Levant ? Là, nous sommes en plein paradoxe parce que c'est la Troisième République laïque qui a fait en sorte que l'influence française permette de préserver certaines minorités chrétiennes et notamment maronites, avec la création d'un grand Liban arraché à la Syrie pour que cette minorité maronite soit considérée comme une majorité et protégée. On était anticlérical en métropole et on collaborait avec les congrégations chassées de France en 1901.
Quel paradoxe.
Et qui s'étaient réfugiées au Liban et dans les colonies françaises avec l'idée que la France républicaine et laïque pouvait les utiliser pour asseoir l'influence française. Et il suffit de lire les écrits de Robert de Quay, qui est l'artisan du dépeçage de la Syrie sur des bases confessionnelles, pour voir dans quelle contradiction on est. Robert de Quay bouffait du curé, si l'on peut dire, en France, et a été l'artisan de la division de la Syrie sur une base confessionnelle avec l'État du Djebel Druze, l'État des Alaouites et évidemment le Grand Liban, qui permettait à une minorité de faire croire qu'elle avait un statut majoritaire.
Donc on voit bien l'empreinte de la France. Alors si vous voulez bien, Pierre-Jean Luizard, on va faire un saut dans le temps. Je vous propose d'écouter un extrait des vœux d'Emmanuel Macron en janvier 2018 où il aborde le dossier syrien. Et j'aimerais entendre ensuite votre point de vue d'historien là-dessus.
Le peuple syrien a un ennemi, il s'appelle Bachar el-Assad. Mais il est toujours là. Il nous faudra donc trouver la solution politique dans les semaines et les mois qui viennent pour organiser une stabilité territoriale inclusive où l'ensemble des sensibilités pourront être entendues et s'exprimer dans le cadre d'élections à venir. Et donc oui, dans ce cadre, il faudra parler aux représentants de Bachar el-Assad. Mais oui, dans ce cadre, il faudra que toutes les sensibilités syriennes soient entendues et reconnues, et que tous les opposants syriens, qui parfois ont fui leur pays et sont dans la région, au Liban, en Jordanie, en Turquie, à travers l'Europe, parfois au Canada, aux États-Unis, puissent être pleinement reconnus, que leur sensibilité soit reconnue et qu'ils puissent s'exprimer dans le cadre d'élections ainsi organisées.
Voilà, on voit bien les efforts qu'en 2018, Emmanuel Macron voulait faire avancer donc pour aboutir à une forme de paix en Syrie. Est-ce que l'historien que vous êtes, Pierre-Jean Luizard, je rappelle le titre de votre livre, « Les racines du chaos » chez Talandier, est-ce que l'historien que vous êtes n'entend pas dans ces propos d'Emmanuel Macron de lointains échos d'une forme de mandat français ?
Alors, il y a une fois de plus un déni de la part d'un dirigeant politique français de l'origine de la crise en Syrie. Emmanuel Macron parle comme si c'était une simple crise politique liée à un régime.
Ouais.
Alors que la France, qui a enfanté cette Syrie croupion rétrécie sur une base confessionnelle malgré tout, même si ça a été plus long en Syrie, à s'affirmer qu'au Liban, mais le confessionnalisme politique y règne bien, étant donné que l'État n'a jamais eu la légitimité nécessaire pour créer une citoyenneté commune.
Mais Pierre-Jean Luizard, cette France coloniale a-t-elle enfanté le colonialisme ou a-t-elle composé avec le confessionnalisme, pardon ?
Alors, il faut rappeler ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, le fait que la France a arraché de nombreuses provinces à la Grande Syrie sur une base confessionnelle, c'était le cas notamment du Liban, mais non contente de rétrécir la Syrie à son territoire actuel, elle a commencé à créer des États croupions sur une base confessionnelle, l'État du Djebel Druze, l'État des Alaouites, qui d'ailleurs ont disparu dans les années 30, faute d'élites capables de gérer correctement ces nouvelles entités totalement artificielles. Et la France a imposé le nouvel État syrien contre la volonté majoritaire des musulmans sunnites, des arabes sunnites, qui avaient donné leur voix au royaume hachémite d'Irak, dirigé par le roi Faisal en 1920, et que la France a battu militairement à Meysaloun lors d'une bataille qu'on ne connaît pas dans nos livres d'histoire, mais qui est très largement évoquée dans les livres d'histoire syriens.
Jean-Christophe Ploquin, La Croix.
Oui, donc dans cette période 1920, enfin, ou fin de l'Empire ottoman, finalement, les élites politiques dans la Syrie actuelle, le Liban actuel, la Palestine actuelle, étaient finalement des élites sunnites, qui étaient des élites citadines, qui étaient dans les grandes villes, Beyrouth, Tripoli et d'autres, et Damas évidemment. Et donc, comment est-ce que s'articulait la relation entre ces élites sunnites, très connectées avec le reste de l'Empire, et puis effectivement les élites peut-être moins développées, mais les élites chrétiennes, dont on sait qu'à ce moment-là aussi, alors sous l'influence de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, il y a eu un essor aussi finalement un développement finalement des populations chrétiennes qui se sont aussi structurées. L'éducation s'est développée très vite avec des écoles de type un peu occidental.
Les journaux
au départ étaient un peu développés par les chrétiens. Donc comment est-ce que s'est passée finalement cette période de coexistence entre sunnites et chrétiens?
Pierre-Jean Luisard.
Oui, alors il y a eu effectivement une politique très active de la part de la France d'attraction des élites communautaires. C'est vrai pour la communauté arabe sunnite, à qui la France a donné beaucoup de, a fait beaucoup de promesses. Et c'est vrai également des élites des minorités. Qui ont été promus à un statut qu'elles n'auraient jamais pu envier sous l'Empire ottoman, notamment au Liban. Je rappelle que c'est sous le mandat français que la communauté chiite libanaise a été reconnue officiellement avec un moufti, avec désormais la possibilité de vivre selon leur statut personnel propre et non plus sunnite.
Alors qu'elle était très marginalisée, marginalisée par les élites sunnites, quoi.
Elle était non seulement marginalisée, mais non reconnue. Donc il y a eu un tropisme français, mais anglais également, envers les minorités et envers la majorité. Il y a eu la tentative qui a réussi pendant un certain temps d'attirer les élites arabes sunnites contre les mouvements populaires très puissants qui vont culminer en 1925 avec la grande révolte arabe et ce qu'on appelle les Aïssabat, c'est-à-dire les bandes armées qui luttaient contre les Français et qui vont être battues militairement par une armée française supérieure en force.
Les racines du présent, RCF.
Au micro Frédéric Mounier, cette semaine nous partons à la recherche des les sources, des racines des chaos arabes avec notre invité historien Pierre-Jean Luisard pour son livre Les racines du chaos chez Talandier. Nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix et spécialiste de cette région du monde. Alors on voit bien dans cette région du monde une sorte de marqueterie politico-religieuse, politico-confessionnelle. On a évoqué la chute de l'Empire ottoman, on a évoqué le mandat français en Syrie, on a vu comment la France, nous disait Pierre-Jean Luisard, a enfanté en quelque sorte les confessionnels dans ces États. Je voudrais aborder maintenant avec vous la question du Liban. Pierre-Jean Luisard, dans votre livre, vous évoquez au Liban une instrumentalisation par la France coloniale des élites confessionnelles locales. C'est comme ça qu'a commencé le drame du Liban, Pierre-Jean Luisard ?
Alors, l'origine du confessionnalisme politique remonte à l'époque ottomane, puisque sous la pression des pays occidentaux, notamment de la France, deux communautés, les maronites et les druzes, vont se voir accorder un statut particulier.
Alors expliquez-nous peut-être, les maronites sont des chrétiens?
Les maronites sont des chrétiens rattachés à Rome, voilà. Catholiques, donc des chrétiens orientaux. Et les druzes sont une des branches du chiisme très éloigné qui se rattache à la dynastie égyptienne des Fatimides. C'est une une communauté qui existe dans le sud du Liban et en Syrie et qui est réputée pour l'ésotérisme très poussé de ses doctrines.
Et peut-être aussi par la qualité guerrière de ces hommes, non ?
Et par la qualité guerrière de ces hommes, ce qui explique, malgré leur faible nombre, qu'ils aient été promus communauté régnante avec les Maronites du Mont Liban. Le Mont Liban qui, je le rappelle, ne couvrait qu'une partie infime du Liban actuel, hein, c'est-à-dire l'arrière-pays de Beyrouth et de Byblos.
Alors, la France s'est donc avancée dans ce nid de frelons, si je vous entends bien, Pierre-Jean Luisa. Comment la France a-t-elle voulu créer le Grand Liban ?
Alors, la différence entre le confessionnalisme politique ottoman et le confessionnalisme politique d'inspiration française vient essentiellement du fait qu'à l'époque ottomane, l'État restait à Istanbul. Donc les prérogatives des gouverneurs maronites et druzes, des kaimakams, comme on le dit en arabe, étaient quand même limitées, alors que désormais, avec les Français, l'État était local, donc avec des sources de pouvoir décuplées par rapport à l'époque ottomane. La France n'a eu aucune peine à attirer à elle les élites des grandes familles. Et d'ailleurs, ces élites, à travers un système quasi-féodal, régnaient sur leur communauté.
Le mot est lâché, féodal.
Oui, bon, c'est un peu différent du féodalisme français, mais il y avait un attachement communautaire qui était lié à la domination de grandes familles qui partageaient avec le pouvoir religieux l'essentiel
du
pouvoir communautaire.
Et quand on vous lit, Pierre-Jean Luisa, on voit que les noms de ces familles sont les mêmes aujourd'hui.
Alors,
c'est les Gemayel, c'est les...
Pour certains, ils sont toujours, ils sévissent toujours, même s'ils sont vomis par l'essentiel de la population, y compris les jeunes chrétiens maronites, qui les rendent responsables de la corruption et du confessionnalisme qui a amené le Liban à plusieurs guerres successives. Mais aujourd'hui, ils ont été... leur a succédé une nouvelle élite issue de ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre.
Oui.
Guerre civile qui a ensanglanté le Liban de 1975 à 1990 et qui a renvoyé un certain nombre de grandes familles. C'est notamment vrai chez les chiites, un peu moins chez les maronites, mais il y a eu un renouvellement de la classe politique. Quelqu'un comme Samir Jarjar, par exemple, illustre tout à fait ce renouvellement, car il n'est pas issu du tout des grandes familles maronites traditionnelles.
Jean-Christophe Bloch, hein, La Croix.
Oui, alors Pierre-Jean Luisard, c'est une question un petit peu sur cette... on sent, à vous entendre, l'imbrication entre les communautés qui existaient au Liban, le rôle des religions comme ciment de ces communautés, et aussi les lignes de fracture à l'intérieur des communautés, comme on vient de le dire avec les grandes familles et puis les personnes qui étaient sous leur dépendance. Mais comment, finalement, s'est poursuivie cette imbrication entre religion et communauté? Et aujourd'hui, on n'arrête pas d'entendre les jeunes Libanais qui disent il faut séparer la religion de la politique. Je crois que même le patriarche Raï, aujourd'hui, le patriarche maronite dit il faut arriver à un état séculier et séparer les communautés de la politique, les religions de la politique. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué encore aujourd'hui de créer cette séparation ?
Pierre-Jean Luisa.
Eh bien, c'est si compliqué, voire impossible pacifiquement, parce qu'il n'y a pas d'État capable de préserver un espace public et une citoyenneté commune, et les mêmes qui manifestent le matin contre le confessionnalisme politique, quand on leur propose le soir une loi abolissant du jour au lendemain le confessionnalisme, poussent les hauts cris en disant « non, non, ce serait trop dangereux ». Car effectivement, l'État n'est pas là pour protéger les uns des autres, mais l'État est une agglomération de communautés, de 18 communautés. Et d'ailleurs, ce confessionnalisme politique a trois piliers qui sont essentiellement d'inspiration française. La Constitution de 1926, qui a été rédigé essentiellement par des juristes de la Troisième République.
Des juristes français.
Des juristes français. Le pacte national de 1943, qui instaure, même s'il n'est pas écrit, le confessionnalisme politique, toujours en spécifiant c'est de façon provisoire et transitoire, et ce qu'on appelle la formule au Liban, c'est-à-dire
la coutume, la tradition.
La coutume, la tradition. D'ailleurs, je remarque que c'est un mot proche qui est utilisé en Irak pour légitimer le même système. En Irak, on dit la tradition.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent, aujourd'hui, nous essayons de comprendre les sources des racines des chaos arabes avec l'historien Pierre-Jean Luisard pour son livre « Les racines du chaos » chez Talendier. Nous sommes également en compagnie de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix. Alors, Pierre-Jean Luisard, vous venez d'évoquer l'Irak. Je voudrais vous faire écouter un extrait sonore. C'est le témoignage de l'envoyé spécial permanent de La Croix à Rome qui a suivi le voyage historique du pape François en Irak en mars 2021. Écoutez ce témoignage.
Je dois avouer que lorsque la porte arrière de l'avion s'ouvre, j'ai un peu de mal à croire que ce pape nous a emmenés ici, à Bagdad. En descendant de la passerelle de l'arrière de l'avion, je me tourne vers la droite et je vois une autre passerelle, à l'avant de l'avion cette fois, au-dessus de laquelle se trouve un vieux monsieur, en blanc, dont le vêtement ample est balayé par le vent. Et c'est à ce moment précis que je comprends que ce voyage va être historique. Qu'on va vivre quelque chose de totalement hors norme.
Voilà un voyage historique, un voyage hors norme. Alors on va remonter, si vous le voulez bien, Pierre-Jean Luisard, avant de parler de l'action éventuelle du Saint-Siège, mais on va remonter aux sources de ce chaos irakien. Vous écrivez, c'est le titre de votre chapitre consacré à l'Irak, Pierre-Jean Luisard, l'Irak est un État construit contre sa société. C'est une création britannique récente. Expliquez-nous.
Alors, l'Irak est effectivement, comme la Syrie, le Liban et tous les États de la région, une création coloniale, française pour la Syrie, le Liban, britannique pour la Transjordanie et l'Irak. Et au contraire de la Syrie qui a été dépecée, l'Irak a été agrandi. Il y avait eu des consultations sous l'égide des Américains et du président Wilson sur les desiderata des différentes populations.
Donc après le traité de Versailles.
Après le traité de Versailles. Et les Irakiens s'étaient prononcés pour un royaume arabe musulman présidé par l'un des fils du shérif Hussein de la Mecque. Sans lien de dépendance avec une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, donc refus du mandat, et avec un régime qui est constitutionnel. On sait ce qu'il en a été, puisque San Remo, la conférence de San Remo...
En 1920,
a attribué le mandat aux Français sur la Syrie, le Liban...
Sans consulter les acteurs locaux.
Non seulement sans les consulter, mais contre, puisque en Irak, ça a eu pour effet de susciter le mouvement armé le plus important que la région ait jamais connu, notamment chez les chiites, et qui est réputé en Irak comme la révolution de 1920, qui est l'équivalent de notre 14 juillet, mais qu'on apprend uniquement dans les livres d'histoire irakiens. Donc la révolution de 1920 était contre le mandat et contre l'occupation britannique.
Et quel fut son résultat ?
Son résultat fut l'écrasement dans le sang de l'insurrection. Et en 1925, le rattachement à l'Irak arabe de provinces non arabes, malgré un référendum kurde qui répondait aux promesses occidentales d'un État kurde indépendant.
Alors la question kurde est évidemment essentielle quand on évoque l'histoire de cette région du monde.
Voilà, la question kurde était née puisque les Kurdes ont été rattachés à un État qui se définissait comme arabe et qui ne leur a fait aucune place.
Jean-Christophe Ploquin.
Oui, juste une petite incise, mais là aussi c'est une question, finalement, il y a eu un élément perturbateur aussi dans les stratégies des grandes puissances, et notamment de la France et de la Grande-Bretagne. En fait, c'est la révolte d'Atatürk, c'est-à-dire que normalement, la Turquie, enfin l'Empire ottoman, devait sinon disparaître, en tout cas être réduit vraiment à un état croupion, la révolte et donc une partie aussi de l'influence française et britannique devait s'étendre à la Turquie actuelle. Et finalement, la révolte d'Atatürk et ses succès militaires ont aussi brouillé les pistes, et notamment un État kurde qui avait été ébauché à un moment donné, évoqué, finalement devenait impossible avec finalement l'emprise et les victoires d'Atatürk, qui étaient farouchement opposées à cet État kurde.
Oui, il est vrai que la géopolitique ne militait pas en faveur d'un État kurde indépendant.
Pourquoi ?
Parce qu'il y avait une opposition turque et iranienne.
Oui, tout le monde était contre, en fait, c'est ça.
Mais les Kurdes ont commis l'erreur de croire les promesses des Occidentaux, et les différentes insurrections connues par le Kurdistan entre 1919 et 1923 montre bien qu'ils étaient prêts malgré tout à assumer l'indépendance.
Alors Pierre-Jean Luisard, en vous écoutant, on se dit que cette marqueterie confessionnaliste, que cet imbroglio colonialiste n'a pu que susciter des amertumes, des frustrations, des violences. Jean-Christophe Ploquin, lorsque vous alliez en reportage dans ces pays-là, puisqu'il est aujourd'hui devenu difficile de s'y rendre, quelle était l'image de l'Occident ? Est-ce que tout ce qu'on évoque là est encore présent dans les mémoires longues des acteurs locaux ?
Très clairement, effectivement, je pense qu'il y a un rapport complexe, ambigu et contradictoire vis-à-vis de l'Occident, avec d'ailleurs, jusqu'à une période très très récente, en fait, les États-Unis qui avaient remplacé la France ou la Grande-Bretagne comme puissance dominante, prépondérante et avec une très forte influence dans la région. Donc ça s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand on est sur le terrain, et évidemment Pierre-Jean Luisard connaît mieux le terrain que moi, notamment en Irak, mais on a à la fois, quand on rencontre les populations, à la fois des attentes très fortes. Alors à l'époque, c'était vis-à-vis des États-Unis, un petit peu de la France ou de la Grande-Bretagne, mais voilà, c'était vraiment Washington qui était un peu la capitale dont on attendait un peu tout et son contraire, selon qu'on était chiite ou selon qu'on était kurde ou voilà. Et en même temps, il y avait toujours cette représentation d'un Occident qui, tôt ou tard, allait renverser ses alliances, allait vous lâcher en race campagne. Oui. Et donc, voilà, c'est ce sentiment, me semble-t-il, très complexe.
Un Occident à la fois omniprésent, fragile, peu fiable.
Un peu retors, très clairement. C'est-à-dire défendant ses propres intérêts et pas ceux des populations locales. Et je pense que les populations locales sont vraiment conscientes de ça.
Pierre-Jean Luisard.
Oui, effectivement, il est très difficile d'y voir clair, d'autant plus que le ralliement des élites locales dans chacun des pays à l'État en place, qui offrait une forme de pouvoir, n'a pas aidé à y voir clair. Et il y a eu une période que j'appelle d'illusion nationale, avec des partis politiques nationalistes syriens, nationalistes irakiens, des partis de gauche.
Des partis laïques ?
Des partis laïques. Le parti communiste irakien était le plus grand parti communiste connu, avec l'illusion qu'il était possible de résoudre les crises politiques et sociales à travers l'unionisme arabe, donc nassérien ou bassiste, ou à travers la réforme sociale.
Et ce fut une illusion.
Ce fut une illusion, puisque ces partis politiques ont aujourd'hui disparu et il n'existe plus que des partis communautaires confessionnels.
Alors justement, il faut évoquer maintenant, Pierre-Jean Luizard, ce rapport à la religion. Vous écrivez « La sécularisation des sociétés arabes s'est faite à travers la religion ». C'est quelque chose qui nous paraît, nous, paradoxal, mais expliquez-nous.
L'islam est devenu la religion du colonisé, dans la mesure où l'islam majoritaire sunnite en Syrie et au Liban par extension et chiite en Irak a été à la pointe de la lutte contre la domination britannique et française. Mais cela a correspondu à une mutation et à un rapport nouveau à la politique. Il est faux de chercher quelque chose de nouveau dans l'islam politique. L'islam a toujours été politique.
Oui.
Il suffit de voir les sultans califes agir au nom du djihad pendant les siècles précédents. Mais ce qui change beaucoup, c'est l'apparition de nouveaux acteurs non religieux qui agissent au nom de la religion chez les sunnites. Je pense notamment aux frères musulmans. Et chez les chiites, à la transformation du clergé chiite en machine de guerre anticoloniale. Il y a une grande différence entre les grands ayatollahs irakiens qui mènent le djihad au nom d'une conception de la religion et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de partis islamistes chiites, dont certains d'ailleurs sont d'anciens communistes et ne sont absolument pas croyants.
Singulier paradoxe. Mais au fond, vous nous expliquez, Pierre-Jean Luizard, que le djihadisme n'est pas né de rien. Ce que nous voyons ici comme étant le djihadisme est profondément enraciné, profondément ancré dans ces tourments que a vécu le Moyen-Orient.
Voilà, le piège du communautarisme ou du confessionnalisme réside dans le fait qu'il y a toujours des exclus. Et les exclus...
ceux qui ne sont pas de la bonne religion.
C'est-à-dire que quand il y a trois communautés, il y en a toujours deux qui s'entendent contre la troisième. Et les exclus, après l'invasion américaine de l'Irak, se trouvent être ceux qui ont dominé la politique irakienne pendant un siècle et avec ce dernier avatar... du régime de Saddam Hussein. Donc on voit qu'il y a eu une radicalisation très rapide de cette communauté qui n'envisageait nullement d'être une minorité sans pouvoir et sans ressources. Et on a vu un basculement très rapide des leaderships sunnites au pouvoir vers Daesh. Et on a vu là aussi une radicalisation de gens qui étaient très sécularisés et qui considéraient Daesh comme un simple porte-drapeau pour des enjeux communautaires.
Alors au milieu de tout ça, on a vu débarquer du ciel tout à l'heure, on a entendu Lou Besmand de Senneville, l'envoyé spécial permanent de la Croix à Rome, qui racontait avec beaucoup d'émotion son arrivée aux côtés du pape François à Bagdad en mars 2021. Comment, au sein de cette marqueterie, de cet imbroglio, comment a pu être perçu le voyage du pape François en Irak, Pierre-Jean Luizard ?
Alors, le voyage du pape en Irak a laissé beaucoup d'amertume chez les Irakiens parce que qui a-t-il rencontré ? Il a rencontré ceux que la société rend responsables du désastre actuel. Le premier d'entre eux est le président de la République, le premier ministre et, non le moindre, l'ayatollah Sistani, qui est à l'origine des milices qui aujourd'hui ont combattu Daesh et au nom de la haine anti-sunnite et qui se sont rendus responsables de multiples exactions contre la population arabe sunnite. A-t-il exprimé l'intention de recevoir des représentants de la société civile ? La chose n'était pas facile parce que cette société civile n'a pas de représentants. Mmh. C'est le problème. Mais tout au plus aurait-il pu faire un geste envers une société qui vomit sa classe politique et la rend responsable de l'enfer qu'elle vit aujourd'hui.
Jean-Christophe Ploquin, vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Le Saint-Siège peut-il être un acteur extérieur impartial dans ce type de complexité moyenne-orientale ?
Alors, je pense que c'est effectivement très très compliqué. Le Saint-Siège a certes des objectifs diplomatiques, mais se présente surtout comme l'expression finalement du catholicisme. Mmh. C'est le chef des catholiques finalement qui se déplace qui a souhaité, je pense, à l'occasion de ce voyage, apporter son soutien aux chrétiens de la région et notamment de la région du Nord-Ouest qui avait été très affecté aussi par le règne de Daesh pendant quelques années dans la région de Mossoul et dans les plaines environnantes. Je crois qu'il a essayé, alors peut-être s'est-il trompé en entendant Pierre-Jean Luisard, pour moi ça soulève vraiment une vraie question. Moi j'avais perçu l'ayatollah al-Sistani dont vous avez parlé comme justement une autorité religieuse qui se tenait...
En tout cas, c'est comme ça qu'il a été présenté.
Voilà, oui. Qui se tenait à l'écart du politique et qui était plutôt une sorte d'autorité morale versus, effectivement, les ayatollahs basés en Iran qui, eux, qui seraient davantage manipulateurs, finalement, du politique et du religieux en Irak. Donc, peut-être, voilà, pape s'est-il trompé d'interlocuteur en rencontrant l'ayatollah Sistani.
Quelle complexité. Pierre-Jean Luisard, en conclusion de votre livre « Les racines du chaos » publié chez Talendier, vous écrivez « Contrairement aux attentes, la modernité psychologique a confisqué tout accès autonome à la modernité politique et démocratique ». Je voudrais que vous nous expliquiez ce paradoxe. On arrive bientôt au terme de cette édition des racines du présent. En gros, notre modernité psychologique, numérique, politique a confisqué tout ce qui pouvait être possible ?
Alors c'est une question philosophique que je me pose sur le caractère impérialiste de la modernité. Dans la mesure où la modernité est aussi source de puissance et peut légitimer au nom d'idéaux progressistes des intentions et des intérêts cachés.
Dans un rapport de force.
Dans un rapport de force. Et de la même façon que on n'exporte pas la démocratie par la guerre et par l'occupation, je me pose la question de savoir si la modernité n'est pas, dans le dernier acte colonial que nous avons connu, un aspect essentiel, puisque c'est au nom de la civilisation, il faut se le rappeler, que Jules Ferry a légitimé la colonisation.
Jean-Christophe Ploquin.
Oui, c'est juste. Je relève que lors des révolutions arabes, alors il y a en 2010, les réseaux sociaux avaient joué un grand rôle dans la mobilisation notamment des étudiants, des jeunes, que ce soit au Caire, à Tunis ou ailleurs. Donc ça,
sans résultat.
Effectivement, donc un outil de la modernité, mais qui n'a pas suffi, en tout cas, à renverser effectivement les régimes établis.
Ces printemps arabes, Pierre-Jean Luisard, ont été une illusion pour vous ? Une bulle ?
Non, pas une illusion. Ça a été un événement historique dont nous devons tenir compte, puisque c'est l'éruption sans retour possible d'une force politique constituée par les sociétés civiles. Et cette force ne disparaîtra pas. C'est la raison pour laquelle je je vois une lueur d'espoir dans ces mouvements
protestataires. Enfin une lueur d'espoir.
Enfin une lueur d'espoir, oui. La question étant de savoir quelle traduction politique ces mouvements peuvent avoir face à des États qui ne sont pas en mesure de répondre positivement à leurs demandes légitimes. Mmh.
Une toute dernière question, Pierre-Jean Luisard, à laquelle je vous demanderai de répondre brièvement. Si, supposez qu'Emmanuel Macron vous appelle pour vous demander conseil sur la position française de notre ancien Levant, comme on disait autrefois, quel conseil vous lui donneriez, Pierre-Jean Luisard ?
Eh bien, je donnerais le conseil de ne pas miser sur les États en place pour résoudre les questions politiques, notamment à travers des élections dont on voit qu'elles ne font qu'exacerber les polarisations, et de proposer à la communauté internationale, si elle existe, des référendums, comme ça avait été le cas à la fin des années 1910, pour sonder les desiderata des populations, dans quel état et dans quelles frontières souhaitent-elles vivre. Et cette fois-ci, de
consulter les peuples,
de respecter les souhaits des uns et des autres.
Jean-Christophe Ploquin, vous présidez l'Association des journalistes de la presse diplomatique. Supposez qu'Emmanuel Macron vous demande qu'est-ce que vous en pensez, vous diriez quoi ?
Eh ben, je pense que tout de suite, il dirait, mon cher Pierre-Jean Luisard, donc vous voulez remettre en cause les frontières héritées effectivement du mandat. Voilà, ça peut être perçu comme une poudrière pour toute la région. Et il faut se rappeler que Daesh voulait remettre en cause, justement, voulait effacer la frontière entre la Syrie et l'Irak. Et voilà, donc c'est cette grande interrogation sur peut-on recomposer les frontières du Moyen-Orient.
Alors, parfois, le maintien de frontières artificielles est plus générateur de guerre que leur remise en cause librement accepté.
Voilà, ce sera votre dernier mot, Pierre-Jean Luisard. Je vous remercie beaucoup de nous avoir introduit à cette extraordinaire complexité historique de cette région du monde. Je rappelle le titre de votre livre que je conseille vivement à nos lecteurs, à nos auditeurs pour aller plus loin. Les racines du chaos. Alors, on a parlé de l'Irak, de la Syrie, du Liban. On n'a pas parlé du Yémen et de la Libye, mais vous êtes tout à fait précis là-dessus. Le sous-titre de votre livre publié chez Talendier, 5 États arabes en faillite. Un grand merci à vous pour votre contribution. Un grand merci également à Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, pour son témoignage. Un grand merci aussi à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de notre invité Pierre-Jean Luisard sur le site de RCF. Vous pouvez évidemment aussi écouter, réécouter cette émission en voiture, en train, en métro, en bus ou avec vos amis à partir du site de RCF ou de votre plateforme de podcast, de baladodiffusion préférée. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.